coordonnateur éducation et développement durable sur le département des Côtes d'Armor. Donc c'est une mission que je tiens donc de l'ADAC, qui est un service du rectorat, qui a pour but d'animer l'éducation artistique et culturelle et l'éducation et développement durable sur la région académique Bretagne. Donc concrètement, ça consiste à animer le réseau des référents ODD. Donc c'est un professeur par établissement qui reçoit des informations, qui pilote les éco-délégués, qui conseille le chef d'établissement sur les démarches d'éducation et développement durable. Donc ça, c'est un des points de la mission. J'ai aussi tout ce qui est conseil auprès des chefs d'établissement. Je dois aussi conseiller donc les établissements, donc les équipes pédagogiques dans leur démarche d'éducation et développement durable, qui, comme pour l'éducation artistique et culturelle, permet d'obtenir un label, donc le label E3D. Si vous avez besoin des informations, je vous mettrai des liens avec les cartes, etc., pour voir territorialement ce qui se passe. Et puis, il y a aussi, bien entendu, tout ce qui est formation. Donc, formation à la labellisation, formation animée à un réseau d'éco-délégués.
Comment définiriez-vous le patrimoine durable et environnemental? Et que pensez-vous de cette appellation?
Alors, le patrimoine durable, alors, tout dépend déjà de ce qu'on donne comme définition au patrimoine. Le patrimoine, ça peut être des biens économiques, ça peut être des biens sociaux, ça peut être des biens immatériels, comme le définit l'UNESCO. Moi, je dirais plutôt qu'un patrimoine, c'est vraiment quelque chose qui est transmis d'une génération à une autre. Et je trouve ça intéressant parce que dans l'éducation développement durable, il y a bien cette dimension intergénérationnelle qu'il faut vraiment mettre en avant, qu'on oublie assez souvent dans notre société. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc moi, je prends vraiment cette définition de bien commun, de patrimoine, donc d'environnement qu'on peut transmettre aux générations futures, de conditions d'habitabilité aussi. Donc ça prend aussi les gaz à effet de serre, donc toutes les données climatiques, mais aussi la biodiversité. Donc je pense que faut vraiment le prendre comme ça. Je pense que c'est le patrimoine environnemental, il est important. Des fois, ça peut être un peu galvaudé comme appellation. Donc, il faut y faire attention. Alors, pour être extrêmement concret, par exemple, sur le département, on a mis en place, en collaboration avec le conseil départemental, ce qu'on appelle les classes d'eau et biodiversité. Et l'objectif, c'est vraiment de sensibiliser les élèves, donc de collège, au patrimoine costarmoricain, donc les grands sites du département, donc Cap Fréhel, Cap d'Erquy, mais aussi tous les sites naturels sensibles et qui sont franchement assez mal connus par les costarmoricains. Donc c'est pour ça que je dis que le patrimoine naturel, il est extrêmement important, mais il est souvent peu mis en lumière.
D'accord. Si je peux me permettre, du coup, qu'est-ce que vous pensez exactement de l'appellation patrimoine durable et environnemental? Ça veut dire quoi pour vous?
Ça veut pas dire, pour moi, c'est plutôt une appellation. Le patrimoine environnemental, tout le monde voit ce que c'est, mais vraiment notre environnement, ce qu'il y a autour de nous. Mais durable, qu'est-ce qu'on veut dire par durable? Un écosystème, c'est jamais quelque chose de fixe, c'est quelque chose qu'on observe à un instant T, c'est quelque chose qui est en perpétuelle dynamique. Alors, est-ce qu'on veut garder un patrimoine comme un site comme on le connaît actuellement, ou est-ce qu'on lui laisse le temps d'évoluer vers un climax? C'est-à-dire vers un système d'équilibre. Donc ça, c'est vraiment une conception qui me paraît assez anthropisée. Donc c'est vraiment, je suis pas très fan de cette appellation. Si on prend par exemple une forêt en France, pour la majorité des gens, c'est quelque chose d'extrêmement naturel. C'est vraiment l'environnement. Sauf qu'en France, il y a plus de forêt primaire. Une forêt sans action de l'homme, il n'en existe plus. Donc ça pose une vraie question quand même. Est-ce que l'homme a tellement d'impact sur son environnement que le patrimoine, il est plus vraiment durable? Il a forcément été modifié. Alors après, tout dépend de ce qu'on veut en faire. Mais ça, c'est une vraie question. On rejoint presque peut-être des points philosophiques là-dessus.
Ok, très bien, merci beaucoup. La troisième question, donc, l'éducation au patrimoine durable et environnemental peut-elle être liée à l'EAC, pardon? Quel en est l'intérêt? Et est-ce que ces deux contenus éducatifs peuvent s'enrichir et enrichir la pratique pédagogique?
Alors, une nouvelle fois, je vais repartir du terrain. On va prendre par exemple les aires éducatives. C'est un dispositif qui est mis en place avec l'Office français de la biodiversité. Sur les aires éducatives, l'objectif, c'est de gérer une partie du littoral. Donc, et de problématiser sur cette petite zone. Hein. Alors des fois, c'est juste un morceau de littoral d'une centaine de mètres sur lequel on va s'intéresser à la biodiversité de cette zone et on va l'interroger. Donc sur ses impacts, sur les utilisateurs, etc. De façon à se mettre d'accord pour protéger au mieux cette biodiversité. Et alors, on peut avoir cette approche extrêmement scientifique, mais on a aussi une entrée souvent par le sensible. Et en général, sur les aires éducatives, il y a toujours des projets, donc de land art, de mise en lumière par des expos photos, etc. Donc, il y a toujours quelque chose qui est très lié au sensible et donc à l'éducation artistique et culturelle. Ça, c'est vraiment intéressant. Moi, ce que je pense et ce que je vois, et quand j'échange avec les équipes, c'est tout le temps ça, c'est que l'éducation artistique et culturelle est une entrée, comme l'éducation en développement durable, pour valoriser un site. Ça, c'est vraiment extrêmement important. On a tous vécu à un moment, soit par un documentaire, soit par une exposition photo, qui nous a sensibilisés à un milieu naturel, et ensuite, on est allé le découvrir. Donc, pour moi, c'est deux entrées qui sont totalement complémentaires, et donc, c'est pas soit l'une, soit l'autre. Sans parler que quand on est avec des élèves, souvent, enfin même tout le temps, les élèves n'ont pas conscience qu'on fasse de l'éducation en développement durable ou de l'éducation artistique et culturelle. Les deux se fondent et se confondent. Donc il faut vraiment avoir ça. Je pense que l'éducation artistique et culturelle et l'éducation en développement durable, c'est plutôt des analyses méta, c'est-à-dire vraiment d'adultes. Les enfants, eux, ont pas de notion de ça. Pour eux, tout se mélange. Il n'y a pas de poisonnement. Ensuite, est-ce que ça peut enrichir les contenus éducatifs? Bien entendu, chaque projet est la base quand même, c'est de travailler des connaissances, des attitudes et puis des compétences. Donc, bien entendu, à travers ces projets, on travaille énormément de contenus éducatifs. Sans parler que normalement, ces projets sont par nature transdisciplinaires. Donc, on doit absolument se mettre à plusieurs autour d'une table avec des collègues pour développer un contenu éducatif et si possible aussi enrichir ce contenu éducatif en allant vers des partenaires. Ça, c'est extrêmement important. Alors, en éducation artistique et culturelle, ça se fait souvent par rapport à des structures culturelles, mais en éducation en développement durable, ça se fait aussi à travers des partenaires. Je pense notamment au réseau d'éducation à l'environnement en Bretagne, le REB, aussi le réseau Bretagne Solidaire, et énormément de structures aussi, donc commerciales ou pas, sur l'éducation au développement durable.
Et est-ce que, par exemple, vous auriez un exemple de projet pédagogique mêlant EAC et développement durable?
EAC et développement durable, oui, on peut prendre par exemple l'exemple de ce qu'a fait le projet à la Carène, par exemple, l'année dernière, qui s'appelle Sonar, avec David Walt. Je pense que vous en avez entendu parler dernièrement aux journées EAC, il était là. Je trouve que ça, c'est particulièrement remarquable. On a vraiment bien le lien entre l'étude scientifique, l'utilisation artistique, et ensuite, cette sensibilisation, comme par une autre entrée, comme je parlais tout à l'heure. On peut aussi parler de tous les projets sur le land art, notamment, qui sont faits sur les aires marines éducatives. Ça arrive très fréquemment. On a aussi, je vais prendre l'exemple, l'année dernière, quand je parlais des classes d'eau et biodiversité, il y a un projet qui a été fait au collège de Bouron, qui est assez remarquable, avec, ils ont travaillé sur l'état écologique de la Rance, donc de Bouron jusqu'à son embouchure, en s'intéressant à la qualité du plancton. Donc le plancton, c'est vraiment la base des chaînes alimentaires aquatiques. C'est très influencé par les intrants donc sur la terre, donc les pesticides, les quantités d'azote, etc. Donc en faisant ça, ils ont réussi à montrer l'évolution écologique de la Rance. Ils ont vu les solutions qui pouvaient être mises en place pour protéger ce cours d'eau extrêmement important. Et puis une fois qu'ils ont récupéré ce plancton, ils ont bien entendu observé la biodiversité microscopique, c'est parce que ça se voit pas à l'œil nu. Et grâce à ça, ils les ont pris en photo, il y a eu des modélisations 3D et aussi une galerie dans le noir avec des planctons qui étaient phosphorescents. Et grâce à ça, ils ont aussi fait une danse des planctons, donc une composition musicale. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que là, on rencontre bien les sciences, l'éducation en développement durable et bien entendu l'éducation artistique et culturelle. Et je pense que ce projet a permis de toucher toutes les sensibilités d'élèves. Et donc c'était un projet bien entendu transdisciplinaire entre un collègue de SVT et un collègue d'art plastique, plus les collègues de français. Donc c'est vraiment un projet à mettre en avant. Je vous encourage vraiment à vous y intéresser. Ici, il y a un autre projet qui pourrait être extrêmement intéressant. C'est aussi le projet du collège Simone Veil. Dans le potager, ils ont travaillé avec, donc pas très loin, il y a la poterie. Donc il y a une commune où il y a des argiles et traditionnellement, il y a eu des potiers qui étaient dans cette zone-là. Et donc, ils ont travaillé avec un potier pour créer des animaux. Et ça s'est fait avec une classe de SECPA. Et je trouve ça extrêmement intéressant aussi, ce lien EDD-EAC, pour travailler l'altérité. Et donc, en SECPA, on a des élèves qui sont en difficulté scolaire. Et le fait de mettre la main, c'est quelque chose qui les motive, qui les raccroche aux apprentissages. Et ça, c'est extrêmement important.